respirer, c'est le week-end sur IDFM.
Et on retrouve notre invitée Martine Alix Copier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de La Recluse du Destel. C'est à retrouver aux éditions Presse de la Cité. Alors, comme à chaque fois, j'aime bien parler un peu du travail précédent de nos invités. Alors, vous avez déjà écrit, notamment avec Jean-Michel Thibault, Le Trésor de la Nord, c'était en 2010, et L'Héritière de la Bessonnière, c'était en 2012. Et donc, vous nous revenez avec la recluse du Destel. C'est une histoire à la base vraie.
Oui, tout à fait. C'est une histoire qui se racontait oralement. C'est une tradition orale qui a été, bien sûr, un peu changée au fur et à mesure du temps, hein, puisque cette histoire se passe au XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV.
Et cette histoire nous plonge dans votre région, dans le sud ?
C'est ma région de prédilection, parce qu'en fait, je suis savoyarde, mais je suis très attachée à la Provence, au terroir provençal. Et au terroir en général.
Alors cette recluse du Destel, c'est donc l'histoire d'une femme qui a vécu en ermite dans une grotte. Et vous nous racontez sa vie, je dirais même sa déchéance, car on découvre que cette recluse, eh bien, était issue d'une famille des plus honorables, avait une vie intéressante dans le sens où elle était éduquée, qu'elle avait des passions pour la littérature, pour les plaisirs de la vie. Mais un jour, elle a tout lâché et s'est enfermée dans l'isolement et voilà. Elle a renoncé au monde.
Voilà, donc c'est ce qui m'a vraiment intéressée dans ce personnage, c'est ce contraste entre les perspectives d'une vie qu'aurait pu avoir cette jeune fille qui était belle, qui avait bien sûr toute la vie devant elle, qui était courtisée, qui avait un amoureux, qui était issue d'une bonne famille et qui vivait donc à La Ciotat, et qui, par un enchaînement de circonstances et une prise de conscience très forte, a décidé de se punir. Donc évidemment, le lecteur ne sait pas au départ, de quoi il en retourne et pourquoi elle est là. C'est petit à petit qu'on va découvrir.
Et ce qui est terrible, c'est lorsqu'on découvre pourquoi, et on ne va pas le dire, bien sûr,
oui.
Mais on se dit combien le destin est fragile.
Tout à fait, mais c'est aussi les conventions, les mœurs, oui, de l'époque. Il ne fallait pas oublier aussi qu'il y avait une chasse aux sorcières, encore, toutes les femmes qui n'étaient pas dans le rang, qui menaient une mauvaise vie ou qui pratiquaient des soins, la guérison, les plantes, etc., étaient vues d'un assez mauvais œil. Et il y avait eu récemment, en 1720, la peste à Marseille. Et beaucoup de femmes en ont pâti, mais je ne vais pas en dire plus, le lecteur découvrira pourquoi.
Néanmoins, on découvre effectivement que le rôle de la place de la femme était très 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 fragile. Hein, pour le moindre faux pas, on pouvait être renvoyé de son propre foyer, de ses parents. Et c'est assez terrible hein, ce que l'on lit, hein, même si c'est une réalité, on le rappelle, hein, c'est l'évocation d'une histoire vraie. Alors, comment vous est venue l'idée de la mettre sur papier ?
Alors, moi j'adore recueillir la mémoire des anciens et chaque fois que je me promène, que ce soit ici en Provence ou dans d'autres régions, j'écoute les histoires des anciens. Et là j'avais entendu parler depuis des années d'une femme qui vivait dans une grotte en dessous du Vieil Evenos. Le Vieil Evenos, c'est le village médiéval de Sainte-Anne-d'Evenos près d'Olioul. Et des personnes m'ont raconté cette histoire. Je l'ai retrouvée ensuite lors d'un salon du livre à Toulon où un érudit provençal m'a dit voilà un magnifique sujet à développer, mais personne n'avait exactement toutes les données. Et j'ai retrouvé après, curieusement, après avoir terminé le livre, j'ai trouvé dans un récit de Veillée Ciotadenne la légende de cette ermite, de cette recluse. Et eux la signalaient plutôt du côté de la Sainte-Baume. Mais là, on rejoint la légende de Marie-Madeleine, qui a passé 30 ans de sa vie dans une grotte, en ermite.
Et c'est donc ce que vous nous racontez, hein, ce parallèle entre cette femme qui a voulu non pas faire comme de très nombreuses femmes, hein, qui lorsqu'elles avaient fait de mauvais choix, préféraient se retirer dans un couvent.
Oui.
pour un certain, je vais dire entre guillemets, un confort. Mmh. Et elle, non, elle va décider de faire pénitence, expier ses péchés dans cette grotte, sachant qu'évidemment ça va être une vie très difficile, elle va se nourrir de ce qu'elle peut.
C'est extrêmement difficile quand on connaît la topographie des lieux, parce qu'il y a des promeneurs, voire des spéléos qui descendent dans ce ravin du Destel. Il fallait vraiment s'accrocher pour vivre là, et quand on sait la rigueur des hivers. Et donc elle s'était aménagée une vie, et elle montait tous les dimanches à l'église du Vieil Evenos. Et elle attendait à genoux sur le parvis de l'église, toujours le visage voilé, pour qu'on lui donne des aumônes.
Et forcément, hein, les gens qui la voyaient devaient être un peu effrayés.
Et après, certains la nommaient la Béate ou la Sainte du Destel. Et d'ailleurs, ce nom est resté quand on visite cette grotte, parce qu'elle est visitable et on voit quelques clichés sur Internet de promeneurs. Mais très peu connaissent cette histoire. Mais c'est vrai que certains l'ont considérée comme une sainte, très pieuse. D'autres en ont eu peur en se demandant qu'est-ce qu'elle avait commis.
Comme péché pour
être là.
Alors, en plus de cette vie de solitude, elle est quand même néanmoins approchée par certains du village. Et c'est ce qu'on va découvrir grâce à ces quelques personnages.
Tout à fait, parce que j'ai voulu donner aussi la parole aux gens du terroir. Parce que c'est sûr, bon, ce personnage de femme est fort et bouleversant, mais il y a aussi tout autour un tas de petits personnages qui vivent soit dans le milieu rural, donc des Venos, sont des paysans, soit qui vivent à la Ciotat, donc là on est dans le milieu maritime, et celui des armateurs, des marins.
Des commerçants, des négociants.
Des commerçants, oui.
Et c'est tout ce monde que vous nous contez, donc c'est une vraie plongée dans ce 18e siècle, et c'est vraiment passionnant, surtout lorsque, comme vous le rappeliez, c'est une histoire qui a vraiment existé, et c'est d'autant plus poignant qu'on se met presque dans les pas de cette femme qui a voulu à tout prix épancher son passé pour essayer de s'en sortir. Enfin, s'en sortir, c'est pas ça, peut-être avoir une place.
Une sorte de rédemption, et puis moi je me suis plongée dans ces conditions, parce que je fais toujours en amont un gros travail sur le terroir, le patois local, les coutumes, mais aussi là dans l'introspection qu'a pu faire cette femme. J'ai essayé d'imaginer ce que pouvaient être les saisons passées à cet endroit, et ce qu'elle pouvait ressentir en vivant seule.
Oui, et puis en plus, on voit le temps qui passe, ces fameuses saisons où c'est très difficile, et puis il y a cette chèvre qui accompagne...
Sa seule amie.
Seule compagnie, oui.
Elle pourrait avoir d'autres amis, d'autres compagnes, mais elle est dans la méfiance, et puis surtout dans cette auto-flagellation.
Et c'est assez poignant. J'imagine que en écrivant cet ouvrage, ça vous a aussi peut-être fait penser à notre société d'aujourd'hui.
Tout à fait, parce que même si les mœurs ont évolué, même si on n'est plus du tout dans ce contexte, il y a encore des comportements assez similaires où les personnes qui sont seules, qui vivent dans leur antre, qui sont en état de réclusion volontaire. Et puis vous parliez tout à l'heure de ce qu'on infligeait aux femmes à cette époque, mais mon grand-père m'a raconté qu'à la fin du 19e siècle, début 20e, en Savoie, par exemple, des filles mères, on les laissait mourir de froid sur des balcons. Les parents les jetaient dehors, par exemple, des comportements comme ça.
Oui, et puis même je dirais presque aujourd'hui. Est-ce que les filles mères sont considérées comme... des femmes, des mères, ça...
Il y a encore ces vieilles peurs ancestrales qui perdurent.
Oui, et là, c'est l'occasion de découvrir le destin d'une d'entre elles. On est au XVIIIe siècle, et pourtant, ça a quelques échos pour notre société d'aujourd'hui. Oui. Je sais que vous êtes en province, mais est-ce qu'on pourra avoir l'occasion de vous croiser en Île-de-France
pour... Eh bien, ce serait bien volontiers C'est-à-dire que tout dépendra de ma présence sur un salon du livre, par exemple, ou lors d'une dédicace en librairie.
Très bien, mais pour le moment, donc rien n'est prévu pour...
Prochainement, non, ça sera plutôt... C'est une tournée de toute façon à travers toute la France, il n'y a pas que la Provence.
Très bien.
Il va redécouvrir sa recluse, ça sera un petit peu partout.
Très bien, alors on peut suivre votre actualité via des réseaux sociaux ou...
Tout à fait, oui, j'ai un site sur internet, hein, martinecopier.com.
Très bien, alors...
Ou même en tapant la recluse du Destel, vous tomberez...
Sur ce...
tout ce qui a pu paraître à ce sujet, hein, dans la presse ou...
Donc avis à nos amis auditeurs, si vous souhaitez converser avec notre auteur suite à la lecture de La recluse du Destel ou sur ses précédents ouvrages, hein, il suffit de cliquer sur un moteur de recherche La recluse du Destel ou Martine Alix Covier, vous l'avez entendu, vous trouverez de très nombreuses informations. Eh bien, je vais vous souhaiter beaucoup de succès pour ce très très beau roman et puis en espérant vous croiser en Ile-de-France pour une dédicace, une rencontre avec vos lecteurs.
Ça sera un très grand plaisir pour moi et je souhaite bonne lecture à tous ceux qui nous écoutent.
Merci
et
à vous.
Et aux autres.
Merci à vous.
Merci.
Donc,
au revoir.
Au revoir. Je rappelle le titre, La recluse d'Estelle, c'est à retrouver aux éditions Presse de la Cité.